L'Express du 2 mai qui est assez plate un peu comme début de mois là, c'est pluvieux puis annonce plus de pluie, des inondations, de la pluie et d'autres inondations. Ouais. T'as-tu vu ça à Baie-Saint-Paul?
Ben là, c'est ça, je voulais commencer par dire ça. Moi, j'ai une pensée pour ces gens-là. Évidemment, vous avez vu les images catastrophiques là, de véhicules récréatifs qui passent en dessous d'un pont avec la crue, la rivière Noire qui sort de son lit, des affaissements, des maisons qui sont rendues sur le bord d'une falaise. En tout cas, moi, je pense bien gros à ce monde-là. Je pense aussi, par contre, je me permets parce que notre chum Steve Sauvé, qui est journaliste dans la section Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield et tout ça, ben écoute, c'est quand même bizarrement fait, là, puis tu vas comprendre rapidement, c'est que la fonte des neiges au Témiscamingue a des conséquences jusqu'à Valleyfield à cause de la rivière des Outaouais. Et là, ben eux autres aussi, là, ils se préparent à la montée des crues puis tout ça. Fait que, écoute, j'envoie mes meilleures pensées à tous ces gens-là. La plus belle description, ben belle, c'est pas le bon terme, en tout cas, la description la plus à propos que j'ai vue, c'est un résident de Saint-Émilie-de-l'Énergie qui dit « La journée a été très longue ». Fait que j'espère que les prochaines vont raccourcir un peu puis que les gens vont passer à travers. C'est vraiment pas cool.
Alors, c'est plate de voir ça. C'est pas nécessairement des millionnaires là, qui s'installent dans des
ben
campings.
Non,
c'est du monde qui ont du monde ordinaire, comme toi et moi, qui réussissent à s'acheter une petite roulotte puis à se payer du bon temps un peu. Puis là, tu vois ça passer en dessous d'un pont, même si les assurances doivent payer...
Le trouble, tu sais, puis tes affaires,
tes
bébelles, tu sais.
C'est ça, là, tu sais.
Ben oui, t'as bien beau te refaire payer, tu sais.
Tu mets ça à ton goût, une roulotte de même que t'es dedans, là, tous les étés, puis, tu sais,
ben,
c'est beaucoup de travail, puis ton été est scrappé, puis...
Il y a des affaires qui se rachètent pas, là. Moi, je donne toujours le même exemple. S'il arrivait de quoi ma Fender Strat 98 que j'ai eu à mes 25 ans par mes chums? Comment tu me donnerais 25 000 piastres, mon broyé, là?
Non, c'est ça. Surtout des instruments de musique, je suis fait pour te comprendre.
Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est bien plate. Mais on pense à vous autres, puis lâchez pas. Puis écoute, souhaitons que la mère nature va être de votre bord, puis ça va se laquer un peu. Ce qui peut aider va se produire. C'est ce que je vous souhaite.
Ouais, puis j'imagine que bon, ça va s'arranger. C'est tellement un beau coin là. C'était dans le territoire que je couvrais quand j'étais journaliste dans cette région là. Tu sais, puis moi j'étais de l'autre bord du fleuve, mais ça faisait quand même partie du territoire parce qu'on le rejoignait avec nos ondes. C'est un maudit beau coin là. Tu sais, c'est bucolique, c'est paradisiaque, là, les montagnes puis tout ça.
Quand que j'étais allé, je sais pas pourquoi ça donne tout le temps que je parle souvent d'elle dernièrement, mais quand j'étais en couple avec Megan. Que la Touski Nation commence à connaître un peu. On était allé faire la Gaspésie en camping, là, tu sais, fait qu'on a fait le tour, là, la BDAA, après ça, on est monté, percé, tout ça, puis on a fait le tour, puis en revenant, on a passé par Charlevoix, puis tout ça, putain, ouais, c'est magique. Puis je comprends que Baie-Saint-Paul, c'est pas la même région, là, je suis d'accord, mais tu sais, on passe à travers...
Juste les côtes,
certaines
hein?
des... Ah, c'est fou,
c'est incroyable, tu sais, puis c'est sûr, faut pas que tu te ramasses en arrière d'un... Westphalia, là, ou ben une van, parce que Colin, c'est long. Les côtes sont tellement abruptes que des véhicules, ils ont de la misère à les monter, là. C'est pas des jokes, là. Moi, avec mon vieux pick-up que j'avais, là, vieux Sierra, il fallait que je prenne un swing, là, je montais ça jusqu'à 140, là, en descendant pour pouvoir monter. Mais même avec un élan à 140 km/h, rendu en haut de la côte, l'autre bord, là, j'étais rendu à 62, là. De vous l'arracher, là. C'est très impressionnant. Puis la vue est incroyable. Sur le fleuve, là, c'est un des plus beaux spots du Québec.
Parmi les deux routes, je veux pas dire qu'il y a juste ces deux-là. Je le sais que dans le chat, ça va me parler d'autres routes. C'est pas un concours. Je fais juste dire que les deux qui me viennent en tête, il y a Charlevoix, évidemment, quand tu passes par là. Puis l'autre, c'est quand tu te rends à Saguenay, mais que tu passes par en arrière, là. Tu traverses Québec, mettons, là, puis tu passes Saint-Anne-de-Beaupré, puis toute l'équipe, là, tu fourches, puis que tu passes par, sais pas le nom de la région, je m'en rappelle pas, mais tu sais, il y a des caps de roche, puis des... Écoute, moi, j'étais dangereux, là, parce que je me promenais en auto, puis j'avais mon sel de même, puis clic, 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 je faisais juste prendre des photos partout, c'était débile.
Jamais allé au Saguenay, maudit. Moi, une des routes que je préfère, c'est... La transcanadienne, quand je vais aux Îles-de-la-Madeleine, rendu à, dans le coin de Desjely, je bifurque vers le Nouveau-Brunswick, Edmonton, tout ça. Quand t'es rendu les derniers bouts du Nouveau-Brunswick, puis l'île du Prince-Édouard, c'est magique, là. C'est juste avant d'arriver à l'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, c'est beau quand t'arrives dessus et quand tu la quittes. Au milieu, c'est un grand champ de patates, mais la transcanadienne là, qui traverse le Nouveau-Brunswick, c'est franchement magnifique, là. C'est le fun en maudit de faire de la route.
Ça, c'est beau le Québec. Si vous n'avez pas eu la chance de faire le tour, puis moi, je l'ai fait pas mal le tour, là, en jouant de la musique principalement, là. Mais tu sais, j'ai été représentant sur la route longtemps aussi, mais en tout cas, tu sais, c'est sûr, c'est le fun d'aller se dorer à Quen au soleil, puis boire des pina coladas puis tout. Mais si vous avez la chance là, de faire le tour du Québec, il y a des endroits absolument magnifiques.
C'est une question de choix. Hein, t'sais, y en a qui aiment ça aller dans le sud, il y en a qui aiment ça aller se promener, faire plus des road trips au Québec, au Canada. Moi je suis jamais allé dans le sud encore. J'ai à peu près jamais quitté le Canada. Le Québec, je connais bien, à part la région de Saguenay, que je m'en veux de ne pas être allé encore. C'est certain que je vais y aller. Mais... Ça vaut la peine de le faire. Par contre, des fois, ça peut coûter plus cher des vacances au Québec que des vacances
dans le sud. Je parle pas d'argent.
Non, je comprends. Mais tu sais, pour vouloir être dépaysé au Québec, il faut aller loin. Souvent, ça va coûter plus cher qu'un tout inclus, par exemple. Je parle pas d'un voyage exploratoire et plein d'activités, tout ça dans le sud. Tout inclus à Cuba, ça peut coûter en bas de 1000$. Essaye pas d'aller aux îles de la Madeleine en avion. Juste y aller en avion, ça coûte 1000$. Ou bien, même si tu y vas en char, de te loger là-bas, ça va te coûter plus que 1000 par semaine. Fait que c'est
un choix. C'est sûr que tout est un choix, mais moi, ça c'est moi, là. Mais moi, je dis, fais le tour de chez vous, là, à un moment donné, si t'as la chance. Ouais. That's it, là. Ça veut pas dire, va plus jamais dans le sud, puis fais plus ça. C'est pas ça que ça veut dire. Puis écoute, moi, j'ai fait le tour de la Gaspésie. J'étais parti 2 semaines. Je suis parti avec une tante, ma blonde, un four au butane, puis ça a pas coûté 10 000 piastres.
Ah, voilà, c'est cool.
Je comprends que le monde a des enfants, je comprends tout ça, là. Mais je dis que quand tu veux, tu peux, puis tu peux faire ça. Pas, peut-être pas pour moins cher, mais à coût très intéressant.
C'est le gaz. C'est sûr que
c'est le mot du gaz.
C'est le gaz. Madeleine, c'est un cas particulier. Juste avoir un camping, il faut que tu le réserves un an d'avance. Là. C'est super compliqué. Puis c'est assez coûteux, mais ça vaut vraiment la peine de faire le voyage. Mais maudit, moi ça me renverse de voir que ça coûte plus cher aller dans ma province que d'aller dans un autre pays, tu sais, d'avion. T'sais.
L'autre pays où tu vois que ça coûte moins cher, c'est ça qu'ils font.
Mais ça vaut la peine de faire le tour de la province. Moi, j'ai habité presque toutes les régions. En fait, je suis né dans presque toutes les régions, hormis le Saguenay. Mais à chaque endroit du Québec, c'est des gens différents, c'est une culture différente, même un parler différent souvent. Puis il y a tellement des choses à voir impressionnantes. Les touristes, nous, on vit ici, là, mais les touristes qui viennent de l'étranger et qui découvrent le Québec, là, c'est comme...
Visitez votre
beau Québec si vous êtes capable. Puis en plus, ça encourage l'économie d'ici. Mais je juge pas ceux qui vont dans le sud, d'ailleurs.
Je suis allé, puis écoute, là, la réalité économique des choses fait en sorte qu'effectivement, là, pas juste, tu sais, c'était probablement plus simple aussi avant. Là, sauf que par contre, ben, tu sais, je suis bien conscient que si tu veux te dépayser, c'est pas chez vous que tu vas le faire, mais c'est faisable. Va au Sea Shack.
En Gaspésie.
Prends ton char, va au Sea Shack, passe une fin de semaine là, tu vas te dépayser.
Tu vas vivre quelque chose en masse. Oh, oui. Puis tu sais, c'est sûr que ça coûte moins cher dans un pays où tu peux rendre quelqu'un super heureux avec des serviettes sanitaires ou des crayons de couleur. Tu sais, je veux dire, ces gens-là vivent dans la pauvreté. C'est en partie peut-être parce que nous autres, pour payer un peu ce que nous autres ça coûte, je sais pas. Mais... j'ai l'impression qu'on profite, tu sais, c'est ça l'affaire, tu sais, aller à Cuba, j'ai l'impression de profiter un peu d'un système qui pénalise la population locale.
Ça.
C'est ça, fait que j'aime
bien. Moi, je suis allé une fois, là, exactement comme que tu viens de décrire. Last minute, 700-800$, Santa Lucia, t'arrives là-bas, le shuttle, le la navette qui te prend à l'aéroport. L'aéroport, tu débarques direct sur le tarmac, là. Tu sais, c'est pas, y a pas de patente qui vient te ramasser à la porte de l'avion pis tout, là. Là, tu prends la navette pour t'en aller à ton resort. Il y a trois resorts un côté de l'autre. C'est pas des 5 étoiles, c'est genre 3 étoiles. Ça t'a coûté 700-800 piastres. Puis en chemin, là, quand tu croises des bovins dans le champ, là, la bédaine le traîne à terre, là. Tu sais, c'est pas, fait que moi, à ce compte-là, j'aime mieux rajouter 400 piastres pour aller au Seychelles.
Moi, je comprends tout à fait ça. Là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme une espèce de petit problème moral, mais en même temps, on n'y peut rien. C'est pas notre pays.
Ben non, puis, on change rien.
Ben non, c'est ça. Fait que allez prendre vos vacances où vous voulez, puis envoyez-nous des belles photos. Personne ne jugera personne. Mais je vous dis, le Québec, ça vaut la peine, notamment Baie-Saint-Paul, quand c'est pas en plein déluge
public.
Ouais, c'est beau en maudit, ça vaut la peine. Puis tout le Bas-Saint-Laurent aussi, de l'autre côté du fleuve, là, t'sais, la région de Kamouraska, c'est magnifique. Les restaurants sont incroyables. OK, passons à certains des sujets qui nous ont intéressés aujourd'hui. Il y en a un, notamment sur le Hull. On apprend que les clients de Desjardins, on est tous à risque d'une fraude par virement Interac, parce que pour que ce soit facile et simple de faire des virements Interac, ben on a un petit peu lésiné sur la sécurité. Et c'est fait tout à fait consciemment, là. C'est comme un sacrifice qu'on a fait pour que les virements Interac soient tellement faciles entre usagers. Ce qu'on fait, c'est le mot de passe qu'on demande, on pose une question, on demande un mot de passe, et ça nous permet d'avoir accès au transfert. Le mot de passe et la question sont rattachés aux individus et non à la transaction. Ce qui fait qu'il y en a qui ont découvert une façon de faire de l'argent avec ça. Ils mettent une cochonnerie ou parce qu'une gugus à vendre sur Internet, sur un marketplace, par exemple. Et puis, avant de faire le paiement, tout ça, bon, ben, on dit, bon, regarde, envoie-moi le paiement. Puis, quand tu auras reçu mon cossin, là, ma TV, whatever, je vais te donner, on va s'échanger le mot de passe, puis l'argent va pouvoir être encaissé. Puis là, ce qu'on fait, c'est, ben là, je pense qu'il y a un problème, là, une fois que le transfert a été fait et que le mot de passe n'a pas été, une fois que l'acheteur a envoyé l'argent sans divulguer le mot de passe au vendeur, le vendeur va prétexter qu'il y a peut-être un problème. Fait que regarde, ce qu'on va faire, on va juste faire un test pour être certain que ça marche, là. Tu vas me faire un virement de 1 piastre.
Ouais, avec
le mot de passe, je vais accepter la pièce. Si la pièce rentre, ça veut dire que ça marche. Puis je t'envoie l'article, puis tout ça. Sauf que le mot de passe qui marche pour 1 piastre, vu qu'il est rattaché aux individus, va marcher aussi pour le montant que tu as envoyé, genre 600 piastres pour TV, système de son, whatever. Et le vendeur, qui finalement a rien à vendre, va se servir du même mot de passe pour encaisser le virement que tu as fait d'abord. Parce que la question est rattachée aux individus et non pas à la transaction. La réponse marche pour les deux transactions. Fait qu'il reçoit 1 piastre, après ça, ben tu perds ton paiement au complet de quelques centaines de dollars et l'autre n'a rien à t'envoyer. Puis ce qui est choquant là-dedans, c'est que cette pratique-là est connue de Desjardins et c'est un choix. On dit... L'expert en sécurité, Steve Waterhouse, dit à la fin de la journée, ils veulent des clients contents de faire affaire avec Desjardins parce que c'est simple et facile. Oups, après vient le mot sécuritaire, mais c'est comme ça malheureusement dans l'industrie bancaire. On va privilégier les transactions faciles, mais en même temps, si on peut démontrer la fraude, l'institution bancaire va rembourser. Le calcul qu'ils font, c'est que c'est plus payant pour eux de rembourser ceux qui se font frauder que de rendre ça plus compliqué, que les gens utilisent moins le service, ironiquement. Moi, je sais pas comment on arrive à ce calcul-là, mais bon, c'est pas ma job. Mais n'empêche qu'il faut se méfier. Si quelqu'un vous demande, après avoir fait un paiement, puis le stratagème de pas donner le mot de passe, tout ça, s'il vous demande un transfert d'une pièce symbolique juste pour tester, là, ben vous savez que vous avez affaire
à montrez-y le symbole universel d'une pièce.
Voilà. Tiens. Vous êtes mieux de faire ça que d'envoyer 1 piastre parce que c'est le même mot de passe et qu'il est rattaché aux individus, c'est ça.
Fait que moi, je vais vous conter ça super vite fait. Je tout le monde fait ses affaires bancaires où il veut, pis c'est bien correct, puis garde ma gueule avec ça.
Moi, sauf que
je vais vous raconter mon histoire de vie. Je suis venu au monde dans Desjardins. Mon père a travaillé là 22 ans. Ma mère, 17. Moi, 4. J'avais les pyjamas, les tasses, le sac de golf, les balles. Chez nous, là, je sais pas si ma mère écoute. La petite banque en forme de maison. Mais chez nous, là, tu sais, même le président du mouvement à l'époque, parce que mon père était délégué régional du mouvement, puis il était administrateur à la fédération, OK? Je suis venu au monde dans Desjardins, et tout ce que j'ai à dire, c'est que je n'y suis plus depuis 2016. Voilà.
As-tu cassé ta petite maison, ta petite banque en forme de maison? Moi, j'avais ça, ils me donnaient ça à l'école.
Oui, puis le petit livret vert de l'épargnant scolaire avec les petites enveloppes, puis toute la patente. Là. J'ai été élevé dans Desjardins. Je n'y suis plus depuis 2016 et je me porte très bien. Fin.
Pas de serment d'allégeance. C'est... Moi, je trouve que ça en dit long. Ça en dit pas mal long.
C'est tout, j'ai terminé, j'ai rien d'autre à dire là-dessus.
Bon, ben, je pense que avec une nouvelle, moi je vais aller lire des commentaires parce que...
Je veux saluer notre ami Jeff Bérard du Space Trash Show. Allez voir sa chaîne. Salut. Si vous tripez Star Wars, si vous tripez modélisme, si vous tripez... terminé. C'est lui. Ouais. C'est lui, il faut aller voir. Tu vois, il dit Desjardins, c'est mal. Ils ne font pas confiance aux jeunes pour un prêt auto à 21 ans. Ils m'ont demandé 2 ans d'auteur alors que je travaillais à ton... Jeff, merci. Fait que là, je la compte. Je veux ma... Écoute, je vous raconte ça, là, je devais avoir 25 ans. Je veux m'acheter un bateau de plaisance, OK? C'est le ce que je veux acheter, c'est, je me semble que c'était 1800$. C'est une cossin, là. Je voulais faire un été ou deux avec ça, là. Puis je dis, regarde, je veux avoir une cote de crédit qui a de l'allure, puis toute la quête, je vais emprunter. J'ai 5000$ dans mon compte de banque, là. Et là, je me rends à caisse pop, conseillère qui me reçoit, fait la demande, remplit la paperasse, tout le kit, et là, j'ai droit au... Martin, c'est pourquoi tu veux t'acheter un bateau? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, un bateau? Hey, asti! J'ai-tu un moyen de l'acheter? Je passe-tu au crédit? Bye, étampe, asti, transfert, je m'en vais acheter mon bateau. Et ça, mes expériences de l'époque est similaire à ce que Jeff raconte, là. Ça a toujours... je vais le compter. Je travaillais dans une caisse pop. J'étais à l'emploi d'une caisse populaire et j'ai voulu m'acheter un véhicule et ils m'ont demandé un endosseur sacrament, c'est eux autres qui me payaient.
Et ont-tu demandé une lettre de ton employeur? Ah, mais je l'ai vécu, ça. Quand je suis arrivé... en Abitibi-Témiscamingue, en 2010. Comme tu le sais, Martin, j'avais besoin de meubles et d'électroménagers. Pour ceux qui ne suivent pas à tous les jours, Martin m'a vendu son poêle et son frigidaire, de marque Frigidaire en beau stainless. Mais c'est pour m'acheter justement les meubles à Martin et d'autres meubles pour meubler mon grand 10 et demi que j'avais là-bas sur 3 étages, j'avais besoin d'un prêt. Puis là, tu sais, j'avais une bonne job, je veux dire, je travaillais à RNC Media, j'avais un salaire correct, puis je m'en vais, j'appelle à ma succursale chez Desjardins qui était à Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Et d'ailleurs, mon compte est toujours là. Je sais pas pourquoi je suis encore là, mais en tout cas. Je demande un prêt, puis impossible d'avoir le prêt. Ça demande un endosseur, puis puis... excuse, Martin, ça m'énerve, là. C'est écrit « joins le Deep Stisk ».
On va le corriger, écoute.
OK, petite réunion prod, fini. Puis là, je demande ça, puis on demande un endosseur. Voyons donc, OK. Je demande à mon père qui, lui, a son compte chez Desjardins depuis 1964 ou je sais pas quoi, dans ces années-là, tu sais, depuis toujours, puis qui est un excellent payeur. Il a jamais manqué un paiement de quoi que ce soit. Il doit avoir un crédit au maximum. Il fait un bon salaire, tu sais, de plus de 100 000 par année. Puis il décide, oui, c'est parfait, je peux l'endosser. Mon père veut m'endosser, fait que comment ça fonctionne? Il dit là, moi je peux-tu aller à ma succursale à Montréal pour endosser, tu sais, signer un document qui fait que j'endosse. Puis moi je suis en Abitibi, mais ma caisse est à Québec, mais ça existe des caisses en Abitibi, des caisses populaires, il y en a. Non, il aurait fallu qu'on aille moi et mon père à Québec, que je fasse 10 heures de route puis lui 3. pour aller faire le signer le document ensemble. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, en 2010, on n'est pas capable de faire ça à distance. Il faut absolument qu'on soit physiquement les deux. Même, est-ce que vous prenez une prise de sang, nos empreintes digitales, un échantillon d'ADN? Jamais qu'on a pu le faire. Fait que le lendemain, je m'envoie à la Banque Laurentienne, j'ouvre un compte, emprunte 5 000, fini.
Oh, pas dans d'autres. J'écoute des
j'ai
histoires.
Payé le prêt, là, puis j'ai, là, le, mon compte doit être fermé à Banque Laurentienne parce que une fois que j'ai fini de payer le prêt, j'ai pas donné suite à rien. Mais avec le recul, j'aurais dû rester là. Je sais pas pourquoi je continue à être loyal à une caisse qui semble qui n'a rien de coopérative. Hein, ceci n'est pas une banque. C'est une coopérative d'amis familiales.
Ben ouais, mais la raison pour laquelle on est. Ben, non, je parlerai pas pour les autres. La raison pour laquelle moi je suis resté là, c'est parce que, écoute, j'ai été élevé là-dedans, j'ai vu mon père en parler de la force du mouvement, puis blablabla, puis oui, c'est au départ, Alphonse Desjardins, à Lévis, ce qu'il a fondé, c'est une coopérative d'épargne. Oui, c'est vrai, c'est noble, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est incroyable, et tout ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, la réalité de la vie a fait en sorte que fallait arrêter de nous traiter. Non, mais attends, tout réside dans ceci, là, Frank. Okay. Là. C'est qu'avant, t'étais un membre de la caisse. Puis à un moment donné, il a fallu qu'il fasse le virage de traiter les gens comme des clients de la caisse. Et ça, c'était pas adapté. Il y a eu une réingénierie qui s'est faite, il y a eu une refonte des services. Je le sais, ma mère était là. Elle travaillait là à l'époque. Là. Fait que toute la réingénierie s'est faite. Frank, tu pouvais pas te faire une carte de guichet à une autre caisse que la tienne, hostie!
Oui, je sais. C'est encore comme
bon,
ça,
fait
je pense.
Fait que là, quand cette réingénierie-là s'est opérée, ben là, c'est devenu plus centralisé. Puis écoute bien comment c'est mal fait. Le monde, quand ils ont commencé à utiliser le guichet unique, en gros, quand tu vas au comptoir, là, ben la personne, elle va au guichet pour toi. Tu sais, si tu dis, hey, je veux payer mon compte d'hydro, mon compte de ci, mon compte de ça, tu sors tes 3 stops, tu les mets à la table, tu dis, pire, tiens, moins 100$. Elle va au guichet pour toi. Tu sais, c'est fini les infos 13, là, puis toutes ces affaires-là, là. Tu sais, fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, ben, quand ils ont fait ce changement-là, mon évaluation, c'est simplement qu'il était trop tard. Mmh. Et là, ben, parce que quand tu fais affaire avec plusieurs banques, j'ai pas d'expérience avec 25 banques, là, mais quand tu communiques avec une banque, il y a une personne qui s'occupe de toi, tu peux l'appeler, tu peux lui dire « Ouais, là, je me suis acheté une bébelle, je voudrais l'assurer, puis tout le kit. » Quand tu voulais faire ça, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, chez Desjardins, c'était fucking compliqué. Parce que là, ah ben là, on m'a transféré aux assurances, puis nanana, puis l'autre affaire qu'ils ont faite, c'est que, puis ça, ben tu pourrais demander à n'importe qui a travaillé comme au comptoir chez Desjardins pendant des années, ils ont demandé aux gens qui étaient là depuis des années à faire du transactionnel, de devenir des représentantes ou des représentants de Desjardins. Ah ben là, avez-vous pas offré des produits, puis toute la quête, puis les gens qui arrivaient au comptoir, ils voulaient rien savoir de ça, là. Tu sais, l'arrivée à la nouvelle ère bancaire s'est faite sur le tard. C'est mon opinion à propos de Desjardins. Fait que ça a donné lieu à un paquet de dichotomies puis de d'affaires compliquées auxquelles le monde n'était pas habitué. Mais dans le temps, là, écoute, aller à Caisse Pop, là, mon père était gérant de caisse, Frank. Aller à Caisse Pop, c'était comme aller à la messe. Ça jasait sur le balcon, puis tu sais, c'était ça. Puis c'est plus ça, là, non, à cette heure. Quand les guichets client. Automatiques sont arrivés, là, ça a été fini.
Je vais trouver commentaire, mais c'est Kate, ça, mon dit, Kate dit qu'elle a acheté sa maison et vendu son ancienne par Zoom avec Desjardins, avec une signature électronique, donc ça a beaucoup changé. Ben, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est tant mieux. Moi, je suis parti avant qu'il s'adapte parce que je n'étais plus capable. C'est tout. Je juge personne. Pardon, je juge personne qui fait affaire là. Je vous fais juste part de mon expérience.
En tout cas, ben c'est bon de savoir aujourd'hui que ben il existe cette arnaque-là. Desjardins est au courant, puis ils ont décidé de s'en sacrer. Ben on nous dit que aussi qu'il y en a qui ont vécu ça, puis ça peut prendre jusqu'à 2 mois à se battre avec la caisse pour obtenir réparation de ce genre de fraude-là. Moi, ouais. J'ai déjà été fraudé avec Desjardins. Ma carte avait été clonée en 2006. Hein, il y avait une grosse mode de ça. Le monde mettait des appareils sur le lecteur Interact, ça lisait la puce, puis ça reproduisait la carte. Et une caméra ou un faux client ou un complice te regardait faire ton NIP et on vidait ton compte. Moi, ça m'est arrivé en partant pour les îles de la Madeleine, puis tout mon budget de voyage est disparu le jour où on a embarqué dans le char, ce qui fait qu'au bateau, j'avais pas une scène pour payer le bateau, j'avais rien. Mais heureusement, ça a été rapide, ça a pris quelques jours et Desjardins a renfloué mon compte, mais c'était assez évident que
ouais,
c'était
moi aussi, il m'est arrivé une expérience de même, là, un téléphone à 2h du matin, quand j'étais avec Desjardins, puis ça, j'ai rien à dire, ça avait été réglé très rapidement, puis j'avais été remboursé.
C'est ça, ben, tu sais, est-ce qu'eux autres, ils calculent que ça revient moins cher, ou est-ce que c'est plus rentable de rembourser les fraudes que de régler ce problème-là, ou ben, plutôt que de rajouter une entrave sur les transactions entre membres.
Ouais, ouais, ben, c'est ça. Mais non, mais j'ai, encore une fois, là, tu sais, je veux dire, moi, mon expérience n'a pas été heureuse. J'en ai eu des bonnes, par exemple. Je veux dire, plein d'affaires qui sont passées. La première maison que j'ai eue, ça avait été avec eux autres, tout ça. Fait que sauf que, regarde, à un moment donné, ben, je me suis écœuré. Voilà.
Ben, écoute, je pense que c'est compréhensible.
Ben, c'est ça. Ben, peut-être aussi que, tu sais, je parle de ces expériences-là avec Desjardins, tu sais. Je veux dire, j'étais connu aussi, là, tu sais, le monde savait, c'était le gars à Pierrette, tu sais, des affaires à même. Fait que peut-être qu'il était un peu plus maternant avec moi, c'est maternante. Mais garde, là, tu sais, garde, voici mes revenus, voici ce que je veux comme prêt. Ça passe-tu? Oui, non, bye, là. Tu sais, commence pas à me faire de la moralisation sur l'utilité ou non d'un bateau. Chris, c'est pas toi qui l'achète, c'est moi.
C'est toi, ça, pour vrai, là. Qu'est-ce que je veux faire ça? Ben, je veux gagner ma vie. Je vais pêcher des perches chaudes et les vendre à la livre. Voyons donc, qu'est-ce que tu penses de faire avec un bateau? Je veux l'exposer.
Inviter des filles puis boire de la bière.
Je veux l'exposer sur mon terrain pour donner de la valeur à ma maison.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, moi, je me sens pas tellement un membre de la famille quand je reçois mes grosses ristournes de zéro. Mais c'est pas la même game pour tout le monde, évidemment. On va aller faire une petite pause là-dessus. On a d'autres sujets qui s'en viennent, notamment, je vais vous parler d'athlètes trans dans l'Express.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
La RSEQ, c'est le réseau du sport étudiant du Québec, demande au gouvernement Legault de mettre des règles claires puis uniformes pour les athlètes transgenres qui sont de plus en plus nombreux. Puis c'est pas une question de discrimination que de vouloir mettre des normes ou encadrer ça. C'est juste une question d'être juste. Parce que là, on cite le cas de Valentina Cagna, qui est une athlète transgenre née dans un corps de garçon, qui a pu rejoindre l'équipe féminine de volleyball du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une bonne nouvelle, tu sais, c'est cool pour l'inclusion. Moi, je trouve ça super cool. Mais là, évidemment, là, je dis évidemment, mais en tout cas, vous me pardonnerez, là, mais on le voyait venir, là. J'ai eu une saison sensationnelle, c'était incroyable, puis tu sais, c'est délicat de parler de ça, parce que quand on parle, tu sais, d'athlètes transgenres, on se bat contre deux affaires. En fait, on est déchiré entre deux choses. On veut permettre l'inclusion et l'ouverture, et on veut être juste envers les athlètes transgenres qui veulent jouer avec des gens du même sexe qu'eux. Le sexe pas qu'ils ont choisi, mais qu'ils ont décidé d'embrasser. Sauf que ça crée des inéquités. J'ai-tu un mot comme ça? Inéquité, je pense que oui. Mm-hmm. Ça crée des inéquités. Puis, ça devient injuste aussi pour les personnes qui ont eu une puberté féminine. Parce qu'on n'a pas le même corps, les hommes, que les femmes. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je sais que c'est délicat de parler de ça parce qu'il y a beaucoup de haters puis de gens anti-trans qui se servent de ça de façon machiavélique dans le but de montrer que ça n'a pas d'allure, qu'on ne devrait pas accepter ça. Tu sais, premièrement, bon, on parle de sport étudiant. Fait que là, l'âge entre beaucoup en jeu là-dedans, là, parce que je peux vous donner un exemple. L'équipe du plus vieux de ma blonde a affronté une équipe de filles du même âge qu'eux autres. Garçons contre filles. Et les filles étaient toutes plus grande, plus massive, plus parce que apparemment c'est ce qu'on m'a appris là, avant la puberté, les filles grandissent plus vite puis acquièrent de la masse plus rapidement. Donc il y avait un avantage fille pour le même âge. Je vous le dis, là, les garçons avaient l'air d'avoir 3 ans de moins. Là, tu sais, c'est fait que ça change avec l'âge, mais rendu à des niveaux adultes ou presque adultes, c'est le phénomène inverse qui arrive. Puis ça serait pas vraiment juste de voir des records fracassés par des athlètes trans, des records féminins fracassés par des athlètes trans, ou voir des athlètes trans dominés parce qu'elles ont un avantage biologique, c'est-à-dire d'avoir vécu une puberté masculine. Parce que les hommes ont environ 30% de masse musculaire de plus que les femmes. Puis là, je parle pas de talent, je parle juste de constitution biologique, là. Fait qu'il faut que ce soit réglementé, puis c'est pas toutes les fédérations de sport qui l'ont fait. Il y en a qui savent pas sur quel pied danser, puis je les comprends. Moi-même, je serais déchiré de voir ça, d'avoir à gérer une affaire comme ça. Du côté, par exemple, la Fédération internationale de l'athlétisme a décidé d'exclure des compétitions féminines des athlètes transgenres hommes et femmes qui ont connu une puberté masculine. Elle est là, la nuance, puis je pense que c'est là qu'est la piste de la solution. Mais c'est plate en maudit, parce que une fois que, tu sais, si tu te sens comme une femme, puis tu fais tout le processus de changer de genre, ben tu veux être avec d'autres femmes, tu sais, c'est normal, là. Tu veux compétitionner contre des gens de ton sexe. Sauf que si t'as eu une puberté masculine, t'as un avantage biologique qui est indéniable. Là. Puis je sais qu'il y en a peut-être dans ceux qui nous écoutent, peut-être pas non plus, qui veulent pas accepter cette réalité-là. Puis tu sais, il y a une espèce de police de la pensée qui dit bah ben un gars et une fille c'est pareil. C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil. Il faut qu'ils aient les mêmes droits, accès aux mêmes privilèges, tout ça, mais il faut aussi se soucier d'une certaine justice. Tu sais, il y aura jamais de femme qui va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Pourquoi? Parce que ça serait dangereux, puis elle ne pourrait pas performer juste à cause de la constitution biologique. Tu sais, vous pouvez citer Manon Réon, mais ben, tu sais, c'était un peu un coup de publicité de Phil Esposito qui voulait mousser l'arrivée du Lightning dans la Ligue nationale. Puis tu sais, elle a amplement mérité d'aller là parce qu'elle était vraiment exceptionnellement bonne et talentueuse. Mais elle était petite comparée aux hommes. Elle avait pas la même masse musculaire et pas la même. Elle pouvait pas avoir la même rapidité non plus, pas les mêmes caractéristiques. Fait que c'est sûr qu'elle a pas pu vraiment jouer dans la Ligue nationale, même si c'était la meilleure. Elle a fait quoi une période, puis je pense que 2 buts sur 9 lancés, ce qui est quand même exceptionnel, là, je veux dire. Contre dans ce niveau-là, qui est le plus élevé de la planète. D'ailleurs, il y a eu toutes sortes d'expériences qui ont été faites. Il y a au tennis notamment, Serena Williams, elle a fait un match contre un homme qui était, elle était, je pense, c'était la meilleure. C'était pas compliqué. C'était la meilleure joueuse de tennis de la planète. Là. Puis elle était battue par quelqu'un un homme qui était genre 200 ou 300e là, tu sais, au monde. Là. Mais c'est pas parce qu'il était meilleur qu'elle. C'est parce qu'il frappe plus fort, puis ça va plus vite, puis il y avait plus de puissance brute. Puis quand on lui en parle à Serena Williams, lorsqu'elle en parle elle-même, elle le dit. Elle dit, c'est comme un autre sport, là. C'est pas la même vitesse, c'est pas la même chose du tout. Tu sais, puis j'étais quand même sceptique, puis j'ai quand même cherché, puis j'ai trouvé un article de la presse qui date de 2010 où on a consulté des experts, tu sais, du tennis, puis on essayait d'évaluer si ça pouvait être possible que le tennis ou que d'autres sports de haut niveau soient mixtes. Puis la conclusion, c'est pas sexiste, c'est juste un fait, c'est que Serena Williams, à ce moment-là, qui était au sommet de sa carrière, ben elle aurait sûrement pas percé le top 500 mondial si le sport était mixte. Même chose pour le hockey avec Hailey Wickenheiser. Elle a beau être, moi j'adore le hockey féminin là. Quand vient le temps des Olympiques d'hiver, J'écoute pas tellement le hockey masculin, premièrement parce que c'est des joueurs de la Ligue nationale, puis les Olympiques, c'est censé être du sport amateur, pas des gens qui se mettent millionnaires avec ça, puis qui en font leur métier. Les athlètes olympiques, souvent, ont un travail dans la vie, tu sais, puis moi, c'est ces athlètes-là que ça m'intéresse de voir. Et le hockey féminin est super spectaculaire, super bon. C'est sûr que ça devient plus intéressant Canada, États-Unis, parce que sinon, les autres équipes du monde sont moins développées, puis depuis moins longtemps, fait que souvent, ils se font juste démolir. C'est des formalités, mais la finale Canada-USA, c'est tout le temps incroyablement bon. Je trippe sur ces joueurs-là. Les Kim Saint-Pierre, les Daniel Goyette, bon, c'est sûr qu'elle joue plus, mais là, ça fait un bout que j'ai pas écouté ça. Mais, c'est juste Sherry Piper, juste de mémoire, je connais beaucoup de joueuses parce que je suivais ça, j'adorais ça, mais... ça reste que c'est pas la même vitesse, puis les mises en échec, c'est pas le même poids, c'est pas la même force. Fait que, tu sais, il faut rester lucide là-dedans. Puis il faut se soucier aussi de la justice pour les femmes qui pratiquent ces sports-là. Tu sais, une haltérophile transgenre qui a vécu une puberté de garçon, qui a eu une musculature d'homme et une ossature d'homme qui est plus dense aussi pour résister aux blessures dans les sports de contact, par exemple. Mais admettons, comme pour ce qui est de je sais pas, l'haltérophilie, ben c'est bien de valeur, mais elle risque de déclasser les femmes biologiques. Donc, ça devient injuste pour les femmes. Sauf que si on lui interdit d'accéder aux compétitions avec les femmes, ben ça devient injuste envers cette personne-là parce que elle s'identifie maintenant sous ce genre-là. C'est une méchante patate chaude que j'aimerais pas avoir à gérer, mais on demande tout de même du côté du sport étudiant au gouvernement de légiférer de ce côté-là. Je sais qu'en athlétisme, c'est réglé, les personnes de transgenre qui ont vécu une puberté masculine n'ont plus accès aux équipes féminines, mais on se retrouve, tu sais, avec toute la beauté de la diversité, puis de la tolérance, puis de l'acceptation, puis de l'inclusion qu'on a, ben ça a un effet pervers, et c'est celui-là, c'est dans le sport où on se retrouve avec des inéquités de la sorte. Je voudrais pas être celui qui deal avec ça.
Moi, c'est super simple. C'est super facile. Dans le contexte de sport scolaire, je pense que c'est... Pour deux raisons... que je vais expliquer après. Je pense que c'est pas l'endroit idéal où tenter d'intégrer les personnes trans. Je parle de sport scolaire pour deux raisons. La première, c'est que actuellement, je dis pas qu'éventuellement ça pourrait pas devenir le cas, mais actuellement, c'est trop un hot topic. Tu rends pas service à l'athlète. Mon opinion. Qui suis-je pour dire ça? Mais je vais donner mon opinion. La deuxième raison, c'est de créer une règle pour une exception. T'sais, c'est pas comme si là, on assistait, je parle toujours, si on me cite là-dessus, je parle de sport scolaire. Puis oui, je suis conscient que du sport scolaire, on pourrait qualifier, t'sais, moi, je veux dire, quand je joue au badminton, j'étais jusqu'au collégial, il y aurait probabilité que ça se produise. Je pense au sport de raquette, je pense au badminton. T'sais, moi, personnellement, j'essaie de m'imaginer, de penser, mettons, en termes de badminton féminin collégial que j'ai joué, que j'ai coaché aussi. J'essaie de penser à la perspective d'un gars qui se retrouverait dans une compétition féminine au badminton collégial. Puis ça serait pas équitable. Ça n'enlève rien aux filles. Il y a des filles absolument phénoménales en badminton. Ça n'a rien à voir. Sauf que si tu parles de puissance de smash, si tu parles de... Tu sais, t'es ailleurs, là. C'est une réalité physiologique, là.
OK? Ouais, c'est ça, c'est des codes.
À calibre égal ou similaire. Moi, pour le sport scolaire, je me garderais une réserve là-dessus. Parce que je trouve que ce serait, comme j'ai dit tantôt, de créer une exception, de créer une règle pour une exception, de normaliser une exception. Et là, quand je dis normaliser une exception, je parle pas en termes dérogatoires. Je suis pour l'inclusion. Sauf que quand tu parles de sport scolaire, pour moi, ça a une connotation différente à cause de l'âge des personnes impliquées. Voilà, exactement. Et que, bien que ce soit très compétitif, c'est pas la nature de la bête est un peu différente. Ça veut pas dire que je pense que le sport n'est pas salutaire pour les jeunes et tout ça. Non. C'est juste que là, à un moment donné, regarde, je vais te donner un autre exemple. Mettons, là, moi, là, je trippe sur le basket, ben raide, je mesure 5 et 8, 5 et 9. Là. OK, ben, je pourrais pas jouer dans NBA. Et je n'ai aucune voix au chapitre. Je peux pas me faire grandir. Puis il y en a des exceptions. Vous allez me parler de Muggsie Bogues, de Spud Webb, des gars de 5 et 7 qui ont joué dans NBA. Oui, ce sont des exceptions. Voilà. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis pour l'inclusion. Dans 99% des cas, j'ai aucun problème à ce que des drags. Tu sais, je salue le fait que la différence soit préconisée, que l'inclusion soit. Mais là, quand tu parles de sport scolaire, je trouve que c'est très différent. Et en plus, c'est fucking complexe comme problématique, là.
Oui, bien surtout que ça change avec le temps, là.
Puis où est-ce qu'il y a une énorme différence, c'est que. Bien que je conçoive que la maturité n'est pas une science exacte et tout ça, tu ne deals pas avec des personnes adultes. Si tu prends l'exemple d'une drag queen qui va lire un conte dans une bibliothèque, ça implique invariablement l'aval d'un adulte. L'adulte va accepter, l'adulte va y aller avec l'enfant, l'adulte va donner la permission de. Sport scolaire, c'est différent. C'est différent. Fait que, écoute, est-ce que je vais revisiter cette position-là éventuellement? Peut-être. Est-ce qu'il y en aura plus? Est-ce que, comme société, si un jour on vient à bout d'accepter ça de façon plus répandue, plus normalement, est-ce qu'il faudra revisiter cette position-là? Peut-être. La réelle solution, ça serait qu'il existe des ligues sportives trans, mais il n'y a pas assez de trans.
Non, mais encore là, je veux dire, ça serait encore pénalisant parce que un athlète exceptionnel, tu sais, dans la ligue trans voudrait accéder à un plus haut niveau à un moment donné, puis elle serait peut-être bloquée à cause de ça. Mais je pense que la solution tourne autour de la puberté. Parce que, tu sais, dans le sport scolaire,
ouais, je suis d'accord,
prépubère, c'est-à-dire les enfants, souvent c'est mixte de toute façon parce qu'il n'y en a pas vraiment de différence, hormis souvent que les filles, c'est ce qu'on m'apprenait, grandissent plus vite, puis souvent vont être plus fortes que les garçons en bas âge. Mais pas toujours. Fait que, tu sais, souvent c'est mixte. Puis dans le cas du plus vieux de ma blonde, ben il a 11 ans, il joue contre des équipes de filles, puis c'est tout à fait fair, puis même que des fois les filles ont le dessus, puis physiquement, puis pas à peu près. Mais je pense que c'est assez fair de garder ça mixte en bas âge, mais c'est au moment de la puberté et après la puberté, on n'a pas le choix de faire une ségrégation parce que sinon, ou plutôt une genre de discrimination, parce que sinon, ça devient pénalisant, tu sais. Puis là, je vais lire un commentaire. J'avais une amie qui a toujours fait du sport avec des gars. Elle était forte au baseball et au handball. Elle a d'ailleurs joué dans l'équipe canadienne féminine de handball. Oui, mais pas dans la masculine. J'avais une fille dans mon équipe de football Pee-wee à l'époque et elle était capable, mais rendue bantam, elle n'a pas été capable, c'était un peu rough, elle a été blessée lors d'une pratique et ça a été terminé. C'est ça, avant la puberté, c'est correct, sauf qu'une fois, quand la puberté arrive, le corps des garçons change dramatiquement, puis ils vont acquérir 30% de plus de masse musculaire que les filles. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, ça se fait tout seul. Puis cette masse musculaire-là représente un avantage qui rend injuste toute forme de compétition.
Ben ouais,
puis les os sont plus denses aussi. Fait qu'ils vont résister mieux aux blessures. Fait qu'il y a sans doute des sports où peut-être le handball, des affaires de même, où les femmes pourraient compétitionner au même niveau que les hommes. Mais encore là, au baseball, la puissance du lancer, la puissance de lorsqu'on frappe avec le bâton, la force brute pour envoyer la balle du champ gauche au troisième but. C'est indéniable qu'il y a un avantage. Fait que c'est pour ça qu'on change on sépare les sexes. C'est parce que sinon, c'est juste pas juste. Puis de toute façon, les femmes ne pourraient pas accéder au plus haut niveau parce qu'elles sont désavantagées biologiquement. Pas parce qu'elles font moins d'efforts ou qu'elles ont moins de talent. Parce que la nature les pénalise pour les sports, mais les avantages certainement pour d'autres tâches, là, notamment cognitives et intellectuelles. Les hommes sont différents. Les hommes et les femmes sont différents. C'est pas vrai qu'ils sont pareils. On est complémentaires, mais on est fondamentalement différents d'un point de vue de l'évolution et de notre biologie. Puis il faut délier avec ça. Moi, je pense que c'est... J'aime beaucoup la ligne de la puberté. Je suis pas un expert, mais je pense que quelqu'un qui a vécu une puberté en tant que garçon avec toutes les hormones, la testostérone, les niveaux de testostérone qui sont beaucoup plus élevés, évidemment, que pour les filles, c'est la ligne. Après ça, si tu as vécu une puberté en tant que garçon, ben je pense qu'il faut évoluer dans des sports d'hommes, même si tu as décidé de changer de genre.
Si l'objectif de certaines personnes est de vivre dans d'être capable de composer avec ça, sans affubler qui que ce soit d'étiquette, pour le sport, c'est impossible. C'est impossible parce que ce serait pas correct pour les autres athlètes impliqués dans un sport, qu'ils soient individuels ou d'équipe, qu'ils ne soient pas au courant que biologiquement, t'es un gars. Tu peux pas, on n'est pas là. On n'est pas là. Ce sera pas. C'est utopique de penser ça. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut être contre l'inclusion. Sauf que, tu sais, sans compter que, effectivement, et encore une fois, moi, là, tu parles de puberté, moi, il y a une notion de maturité là-dedans, là. Il y a une notion du fait qu'il y a des trucs qui relèvent du monde adulte, puis il y en a d'autres qui ne relèvent pas du monde adulte. Ça, je suis peut-être trop old school, là, puis ça veut pas dire que je pense pas qu'il y a de jeunes de 15-16 ans qui sont pas matures. Non, mais c'est juste qu'à un moment donné, faut en tracer une ligne, là. On n'a pas le choix, là. Parce que sinon, ben regarde, écoute, si un enfant de 6 ans qui parvient à te convaincre qu'il est assez mature pour jouer au hockey, quoi, tu vas lui mettre un stock de hockey, tu vas l'inscrire dans le Pee-wee. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y en ait des limites, là. Faut qu'il y ait des balises. Pas des limites, mais des balises. Faut que ce soit jalonné. Sinon, ben écoute, ça va être le free-for-all. Puis ça, c'est pas mieux. C'est pas plus correct. Pour avoir moi-même été impliqué dans le sport scolaire pendant des années. Écoute, il y a même des débats des fois sur le est-ce qu'on, je dis pas que c'est répandu là, puis c'était à l'époque là, mais tu sais, sur est-ce qu'on devrait louer deux autobus pour se rendre au final scolaire pour les gars puis les filles. Fait que là on est 20 ans, 25 ans plus tard, puis on parle de permettre à des jeunes qui sont ouvertement trans et qui veulent vivre leur vie d'être intégrés dans des équipes avec des athlètes qui seraient pas du même genre qu'eux. Du même sexe qu'eux. Fait que, tu n'as pas le choix d'en mettre là, des jalons. Puis c'est un problème complexe.
Puis le sport sera toujours dominé par une forme de discrimination. Parce que c'est pas fait pour être juste, le sport. C'est pour ça que c'est compétitif. On n'est même pas obligé d'inclure la notion de genre. Là. Tantôt, tu parlais de basketball. Ben c'est quand même que tu aurais eu le talent et tout ça. Tu es discriminé par ta physionomie qui fait que tu mesures pas si bien. Moi, je suis pas habile avec une raquette. Fait que je pourrais jamais jouer au tennis. Puis on est tous discriminés par nos propres limites, puis il y en a qui sont favorisés par la génétique. Tu sais, Michael Phelps, là, il a les bras plus longs que tout le monde. Ça aide, là, tu sais, il y a un avantage biologique. C'est ça, on le contrôle pas. Par contre, l'avantage de genre au moment de la puberté, ben là, on est capable d'en prendre conscience, puis il faut trouver une façon d'inclure ces gens-là, mais il faut aussi rester lucide, puis ne pas créer d'injustice.
Je veux finir de quoi, là? Je veux clore un point, là, OK? Écoutez bien, là. Peu importe comment vous allez me spinner ça dans le chat, là. Le sport, c'est de la discrimination.
Oui.
C'est fin, fini, final. C'est que là, faut juste pas mélanger discrimination comme dans génétique, comme dans attributs physiologiques versus choix ou décision de vivre sa vie comme notre genre réel. Donc, fort de ce que je viens de dire, oui, il peut arriver qu'un être humain naisse biologiquement homme, mais soit une femme. OK? Et l'inverse également.
Oui.
Sauf que ça fait pas grandir, ça. Ça rend pas plus fort. Ça fait pas courir plus vite. C'est juste ça que je dis. Donc, la discrimination génétique est au cœur même du sport. C'est pourquoi il y a des athlètes qui vont être recrutés plus jeunes que d'autres parce qu'ils mesurent déjà 6 pieds 9 à 14-15 ans. C'est pourquoi il y en a qui ont une constitution. Ça, c'est de la discrimination biologique. C'est une injustice de chimique. Regarde, c'est une loterie génétique. Mais ça n'a rien à voir avec le choix qui a été fait par les personnes de vivre leur vie comme le genre qu'ils incarnent ou qu'ils sont. C'est tout. C'est rien que ça que je dis. Et ça, de décider de tout intégrer ça ensemble, unilatéralement, dans tous les sports, au scolaire, c'est pas une bonne idée. Fin, là. C'est tout. C'est pas complexe, là.
Non, non, c'est ça, tu sais, puis moi, à un moment donné, j'allais voir une espèce de combat de boxe semi-amateur, là, entre un ancien goût de la Ligue nationale pour les Flames, je me rappelle plus son nom, quand je l'ai juste croisé, c'était au Palace à Québec, je l'ai juste croisé, là, puis je te dis, je me sentais comme un enfant, là, je pense que la totalité de ma masse rentrait dans sa cuisse gauche, là, tu sais, j'aurais beau m'entraîner toute ma vie, puis même prendre des stéroïdes, je pourrais jamais être compétitif avec ce gars-là. Là, je suis même pas à moitié de... Fait que tu sais, c'est ça. Le sport est basé sur la discrimination. C'est ça que c'est. C'est de la compétition basée sur les aptitudes physiques. Puis comme tu dis, c'est une loterie génétique. Certains la gagnent, comme Michael Phelps. Puis il y en a d'autres qui la gagnent pas, comme moi. Mais Kate Vizina dit... au taekwondo, j'ai gagné des combats contre des hommes, sauf qu'il faut juste toucher le plastron pour avoir le point. Alors, c'est très technique. Mais dans la rue, ils m'auraient démoli solide. J'aurais jamais réussi à leur faire mal. Mais c'est ça la différence. Puis, malheureusement, dans le sport, c'est pas juste l'habilité technique et l'entraînement qui te fait gagner. C'est la supériorité physique. Puis ça, ben, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est la génétique qui décide. Et la génétique, ou plutôt l'évolution, a décidé de favoriser en fait que les hommes soient est plus une plus grande masse musculaire puis une plus grande densité osseuse pour faire face. Puis si on peut reculer, tu sais, au début de l'évolution là, des humains, là, les rôles étaient que les hommes devaient chasser, mettre leur vie en danger, faire des choses plus dures physiquement, alors que les femmes ont développé une intelligence émotive qui est à des lieux de celle des hommes pour être capable de comprendre et combler les besoins de la famille. Chacun avait son rôle. On a beau avoir évolué, on vit encore avec les conséquences de cette évolution-là biologique. J'imagine que dans 60 000 ans, ça serait pas impossible qu'on ait des constitutions tout à fait comparables à force que les rôles ont changé et sont mélangés aussi. On voit de plus en plus de femmes faire des travails qui sont traditionnellement qui reviennent traditionnellement aux hommes, et on voit de plus en plus d'hommes accomplir des tâches qui sont traditionnellement qui revenaient plus souvent aux femmes. Fait que, tu sais, sauf que là, on est pris avec ce que l'évolution nous a donné. Puis il faut en tenir compte dans le sport étudiant, dans le sport professionnel, puis il faut tenir compte de ça parce qu'on a décidé d'inclure les gens qui sont transgenres, et je pense que c'est une très bonne chose. Il faut maintenant juste adapter le milieu du sport à ça. Mais pour le reste de la vie, je pense que c'est correct, là. Les transgenres auront pas, ne devraient pas être mis à part dans n'importe quelle autre sphère, n'importe quel autre domaine que le sport, parce que là, c'est biologique, on peut pas se battre contre ça.
J'ai fini, moi.
T'as fini, toi? Bon, ben, que t'avais pas d'autres nouvelles, bon, on peut peut-être y aller.
Ouais,
avec...
non, j'en ai, mais si okay, je suis là, moi aussi. Pense qu'on a tout dit deux fois, là. écoute ça, Frank. Ça va être ma... Il y a une initiative qui se déroule à Québec qui a été annoncée hier qui s'appelle « Mains sans tondeuse ». OK? Je te lis ce en quoi ça consiste. Donc, ce qui est proposé, c'est que pour le mois de mai, évidemment, ce qu'on propose, c'est de ne pas tondre son gazon. Pourquoi? Parce que ça facilite la pollinisation et ça favorise, évidemment, la biodiversité. Donc, ça permet à plein d'espèces de petites bébites, puis de patentes, puis d'abeilles, puis de ci, puis de ça, de faire ce à quoi, ce qu'ils ont à faire. Parallèlement à ça, ben il y a plusieurs édifices également de la ville de Québec, des bibliothèques, l'Université Laval, il y a plein de gens qui emboîtent le pas. C'est la deuxième édition, c'est la deuxième fois qu'ils font ça, si j'ai bien compris le communiqué. Fait que t'as plein de bibliothèques, c'est partout, là, Sainte-Foy, Limoilou, Charlebourg, Beauport, et c'est quelque chose qui, semble-t-il, tend à prendre de l'ampleur. Lire ici, ça se fait ailleurs, OK? Ils n'ont pas inventé ça. Et là, ben, c'est super sympathique. Moi, je trouve ça très, très cool. Mais ce qui est important, c'est les mots. Hein? Les mots sont importants. La Ville de Québec annonce le retour du défi Mains sans tondeuse sur son territoire pour une deuxième année consécutive. Elle invite les citoyens à joindre le mouvement en retardant la tonte de leur pelouse tant que les pissenlits sont en fleurs afin de préserver la nourriture printanière des insectes pollinisateurs et la biodiversité. Ça, c'est la nouvelle, ou en tout cas le communiqué, l'annonce. Là, tu vas sur Twitter.
C'est une affaire de woke. N'est-ce pas?
Et là, ben, tu vois la même affaire. En fait, ils ont tout simplement partagé, ils ont fait ça le 1er mai à 1h46 de l'après-midi.
Oui.
Et ben là, tu te doutes bien que beaucoup.
Je suis déjà pré-dégoûté là, à ce que tu vas dire.
Ben oui, parce que là, écoute, il y a évidemment beaucoup de drapeaux de pirates dans les commentaires. Et là, ben, tu sais, quand tu parles. Bon, si t'es citoyen de Québec, t'as bien le droit de t'exprimer comme tu veux, mais je vais t'en lire quelques-uns, parce que ça fera pas les frais des tweets de tweets. Celui-là va te parler pas mal. Répardons les trous partout sur le chemin Sainte-Foy pour les tondeuses, voir si ça change de quoi, gang de BS.
C'est quoi le rapport? Gang de BS.
Attends une minute. C'est... Après ça, là, la nouvelle affaire que tu vois qui
c'est très radioé, ça, en tout cas.
Ouais, ouais. Là, ce que tu vois, la thématique qui survient, là, c'est les pas propres. C'est le mois préféré des pas propres. Gang de crottés. Ça prend-tu des hosties de pas propres? Gang de pas propres. À quand le mois où le maire fait aucun voyage? Peut-on être encore libre de faire ce qu'on veut? Pas de danger pour la première semaine de mai, il mouille. T'as un peu. On salue les pas propres qui utilisent ça pour être pas propres.
Qu'est-ce pas propre allez, avoir
c'est
des
débile. C'est allez chier, merci. évidemment, tu t'en doutes bien. Un référendum pour le tramway plutôt, tu sais, la démocratie. Hey, ils font juste t'inviter à pas faire ton gazon, hostie de
merde. T'oublies rien, gros cave. Va arroser ta sphate, là.
Mais attends un peu. Bon, écoute, vous pouvez bien aller chier. Ah ouais, le mouton. Les verdoyants des maudits cochons.
Ça, là, j'ai un exemple là, qui est vieux, là, mais qui est très, tu sais, qui fait le lien avec Radio X. Parce qu'à l'époque, il y avait à l'émission de Jeff Fillion, Le Monde Parallèle, il se moquait d'une famille, tu sais, des pas propres, des BS! Des petites gens qui avaient une petite vie, puis qui avaient, tu sais, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de réussir dans la vie, puis de, qui a l'orgueil d'avoir la grosse maison, puis le gazon, tu sais, fait à la serpe, comme dans Astérix, puis, fait qu'il y a des gens qui vivaient de façon simple, puis qui ont été intimidés pendant des semaines par l'émission de Jeff Fillion, tellement qu'à un moment donné, il a envoyé Dennis, the fucking news guy, Denis Gravel, qui s'est beaucoup rattrapé et amélioré par la suite, là, mais lorsqu'il était un genre de faire-valoir de Jeff Fillion, parce que Jeff Fillion, tout le monde qui travaillait dans son show, servait à le mettre en valeur, lui. Il avait envoyé Denis Gravel là, puis il était rentré dans la maison, puis il parlait avec le monde, mais il faisait semblant de faire une démarche honnête, de s'intéresser aux autres, mais il était là juste pour montrer comment est-ce que ces gens-là vivaient de façon simple, puis que c'est du pauvre monde, puis il diffusait ça, puis il ridiculisait cette famille-là, puis il disait, allez voir, là, sur telle rue, la maison, le dégueulasse, le gazon, il est long, puis des vidanges, etc. Puis il invitait le monde à aller sur place se moquer de ces gens-là, là. Mais ça vient de là, là, que ça, c'est des pas propres, tombent pas leur gazon. Chris, c'est pas propre dans la rue, on est tous à 2 cm, puis eux autres, ils ont 4 cm, puis des pissenlits, c'est des pas propres. C'est tellement superficiel et dégueulasse comme mentalité, puis on le voit encore aujourd'hui, ça. Des commentaires que tu me lis là, c'est pour vrai, j'entends. Ça ne m'étonne pas que tu vois des drapeaux de pirates. C'est clair.
De toute façon, regarde, moi, je nous lance un défi, Frank. Je nous lance un défi.
De ne pas tondre notre gazon?
Non. La prochaine fois qu'on parle de la ville de Québec, de ne pas parler de Radio X.
Ça ne sera pas facile.
Non, je dis pas que je suis pas en train de. Mais c'est à un moment donné, là, tu sais, écoute, je comprends, là, puis je le sais, évidemment, là, l'allusion au drapeau, là, je comprends très bien, les drapeaux de pirates.
Drapeau de pirates, d'où ça vient, très bien, tout. Ouais.
C'est sûr, mais j'aurais pu parler des drapeaux de pirates sans nommer Radio X.
Mm-hmm.
On le sait tous, c'est ça, là. Oh oui. C'est pas, on n'a rien appris à personne aujourd'hui.
Non, mais moi, je tenais à faire ce lien-là en racontant
cette anecdote-là.
Parce que c'est tout à fait démonstratif de qui véhicule cette mentalité-là de marde et qui méprise les verts en les traitant de pas propre. Parce que, ouais, évidemment, c'était écologique, t'es un pas propre. C'est l'eau de Javel, ça, c'est naturel. Ça, ça sent bon. Ça, c'est correct.
Ah ouais, ça goûte bon aussi. Ouais, là. Ouais. Hey, on a manqué de temps un peu, là, mais je veux quand même en parler parce que j'ai l'intention d'en parler plus dimanche dans le crachoir dominical, mais la nouvelle est tombée hier, en fait. Ça a été sorti partout, Guardian, New York Times, tout ça. L'annonce, en fait, ça semble être véridique, là, ça semble être fondé. L'annonce que Vice Media Group, donc Vice TV, là, moi je connais bien cette chaîne-là pour une seule, pas pour une seule, mais pour une raison particulière, c'est que ça a été les producteurs d'une série de documentaires sur la lutte qui s'appelle Dark Side of the Ring. Mais il y a beaucoup de gens qui font partie de la flore journalistique du Québec qui ont passé par Vice. Je pense à Brigitte Noël, je pense à Simon Coutu, je pense à... Et puis ce média-là qui a déjà eu une valeur de 5 milliards qui va se mettre sous la loi de la protection de la faillite, ça vient de chez nous, ça vient de Montréal. Ça a été la création de ça, s'est déroulée à Montréal dans les années 90. Fait que je vais en parler un petit peu plus. Je vais en parler un petit peu plus dimanche prochain parce que je pense que c'est assez notoire, là. Puis écoute, peut-être qu'il y en a qui. Bon, évidemment, après ça, ça a eu des ramifications à l'extérieur, là, aux États-Unis, puis tout ça, mais c'est quand même un gros morceau qui va. Là, évidemment, là, il va se présenter des acquéreurs potentiels. Là, il va se prêter. Bon, il va. Il y a peut-être des gens qui vont. Mais je vais vous parler de qui en est propriétaire maintenant. Ça va peut-être vous laisser un peu perplexe et puis un peu de la création. Mais en tout cas, je trouvais que ça valait la peine d'en parler parce que ça a longtemps été considéré comme c'était avant Bebel News, là. Tu sais, c'est eux autres, là, tu sais, se sont vraiment présentés. Ça partait en magazine et après c'est devenu un groupe média, mais ça s'est vraiment présenté comme une alternative. Et il parlait pas de Neil Armstrong puis de marcher sur la lune puis de Survivor. Fait que voilà.
En terminant, je vais peut-être inviter les gens à aller voir une photo inédite de notre cher Martin qui est sur son Twitter, GoMart. on le voit avec sa magnifique barbe et son casque de vélo tel que démasqué par un internaute de Twitter qui notamment aussi a relevé ses yeux de psychopathe sur sa photo de profil. Mais j'ai trouvé ça sympathique de te voir avec un casque de bicycle. C'est quelque chose.
Hey, c'est du monde que je connais, ni Dave ni Dada qui mettent une photo, un genre d'avis de recherche. C'est-tu lui, cette pourriture? C'est même pas moi.
Ça te ressemble même pas! C'est même pas proche!
Moi,
j'étais allé écrire. Gars qui est les cheveux bruns avec un casque. Les cheveux bruns, ça doit être lui. Ça te ressemble même pas un peu.
J'ai mis... En plus, j'étais allé répondre à ce tweet-là, puis j'ai dit... Ah, c'est un casque d'équitation. C'est bien moi.
C'est un casque d'équitation, nous apprend-on dans les commentaires. Ça compte.
C'est tellement n'importe quoi.
C'est tordant.
Ils sont hallucinants. Regarde, c'est pas dur. Ils sont magiques. Vous êtes magiques. J'ai les meilleurs haters de la Terre. C'est les miens. Ils sont fantastiques.
C'est tellement pas brillant ce qu'ils font. C'est pour vrai. Là.
Ils sont magiques.
Puis le dessin avec les yeux. Tu sais, sur la photo, ta photo de profil, tu fais clairement une grimace. Là, il y a une affaire super scientifique. Là. Des dessins d'yeux avec des photos. Regarde, c'est quelqu'un qui a des yeux comme ça. C'est méfie-toi. Celui-là, sauve-toi. Oh, lui, c'est un psychopathe. Fait que là, ils ont analysé que t'es un psychopathe d'après ta photo de profil où tu fais ça.
Faudrait que j'essaye de faire trender je suis Martin Godet.
Avec la photo du gars avec le casque d'équitation. c'est pour vrai, c'est malade, sont tordants. Ok, on va se remettre de nos rires et on se reparle demain à midi pour notre express. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.